Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et parfois, curiosité fait un pas de côté et mord même un peu sur le terrain de l'émission culturelle Le Grand Tout. En effet, j'ai profité là de la venue à Rennes de la traductrice d'une autrice qui a connu le succès après sa mort, c'est l'italienne Goliarda Sapienza, qui aura eu 100 ans cette année. Interview donc de sa traductrice.
Nathalie Castagny, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes romancière, traductrice et présente ce mercredi à la librairie Comment dire à Rennes pour venir parler d'une biographie consacrée à Goliarda Sapienza. J'ai envie de commencer par vous demander comment est-ce que la traduction est arrivée dans votre vie avant de parler de cet ouvrage et puis de cette autrice.
Eh bien, largement par hasard. Ce n'était pas une vocation, je n'y pensais pas, j'écrivais, je chantais, je faisais des petites lectures pour une maison d'édition, et puis on m'a donné quelque chose à traduire, et puis ça s'est enchaîné comme ça, je ne sais même pas trop comment, et voilà. Donc vraiment par hasard.
Et quand est-ce que c'est devenu sérieux ?
C'est devenu sérieux très vite, en réalité, parce que très vite j'ai eu... 2-3 livres qui étaient vraiment des livres importants. Enfin, parmi les livres importants, il y avait Pinocchio, ça c'est amusant. Mais il y a aussi un livre que j'avais lu d'ailleurs pour de Noël, qui était la maison d'édition où je travaillais pour déblayer les arrivages. Et un livre qui s'appelle Mort de Pasolini, d'un poète et écrivain italien, Dario Bellezza, qui avait été secrétaire de Pasolini. C'est un très très beau livre que j'avais beaucoup aimé en le lisant. Il m'avait même beaucoup frappé, et donc j'ai eu la possibilité de le traduire très peu après par une maison d'édition un peu marginale, Persona, qui a été hélas décimée par le sida quelques années après. Voilà.
Comment est-ce que vous racontez votre métier aux gens qui ne connaissent pas ce métier de traductrice ? Avant tout, un métier parfois de questionnement intense sur ce à quoi on doit renoncer dans le choix du sens.
Je ne le raconte jamais, enfin rarement en tout cas, je ne le raconte pas beaucoup. Non, j'en parle comme d'une question d'interprétation, bien sûr, parce qu'en plus ça me parle étant donné que l'interprétation, ça allait avec le chant aussi. Ce sont des choses qui me sont un peu familières, et même ça va avec l'écriture d'ailleurs. Et quant au renoncement, c'est oui, bien sûr qu'il y a des choses. Enfin, il n'y a pas deux langues qui soient complètement parallèles, donc on est obligé, en effet, de s'arranger avec ça.
Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous traduisez de l'italien vers le français.
Voilà, je traduis de l'italien vers le français et je traduis parfois de la poésie, ce qui est la chose la plus terrible de ce point de vue, parce qu'on sait qu'on va perdre énormément de choses avant même de commencer.
Quelles sont vos attaches avec l'Italie ?
Mes attaches avec l'Italie sont anciennes parce que mes parents adoraient ce pays et donc j'y suis allée très souvent avec eux quand j'étais préadolescente. Et après d'ailleurs, pendant beaucoup d'années, j'y suis allée très souvent. J'en ai aimé la langue en la chantant. Et j'en ai aimé la langue en l'entendant et en la lisant. Et j'ai aimé le pays qui est la beauté même.
On arrive donc à Goliarda Sapienza que vous avez... rencontré donc en la lisant au début des années 2000, vous avez donc découvert l'autrice en même temps que cette œuvre majeure que vous avez ensuite été amenée à traduire. Quel est le souvenir de cette rencontre ?
Cette rencontre a été extrêmement marquante parce que c'est les éditions Viviane Ami, par la voix de Frédéric Martin d'ailleurs, qui allait devenir l'éditeur du Tripode et tout prendre en charge, mais à l'époque il travaillait encore chez Viviane, et c'est lui... Par hasard, nous ne nous connaissions pas. Je pense que c'est Viviane qui, elle, me connaissait, qui lui a dit de m'appeler, j'imagine. Puis il n'y avait pas beaucoup de traducteurs d'italien et de personnes voilà, apte à lire un livre comme celle de l'art de la joie. Il n'y en avait pas du tout dans la maison d'édition, bien sûr. Et donc, voilà, ils m'ont demandé de lire le livre pour dire ce que j'en pensais, parce que le livre avait été donné, envoyé à Viviane, peut-être donné à Frédéric. Enfin, là, j'avoue que c'est un peu flou dans mon esprit. Ça fait 20 ans que cette histoire, je devrais la connaître au fond, mais je ne la connais pas exactement. Enfin, bref, une certaine Waltraud Schwarz, grande éditrice allemande, avait reçu ce livre d'Italie, l'a lu, on a probablement été très enthousiasmés, mais ça je ne le savais pas, mais elle disait, voilà, c'est un livre qui a tout contre lui. Il est très long, il ne ressemble à aucun autre, il a été écrit par une femme qui est morte, donc on ne peut pas l'inviter. Il n'a eu aucun succès dans son pays d'origine, mais ça pourrait vous intéresser. Voilà ce qui m'a été dit. Enfin, ça s'adressait donc à Viviane Ami. Et donc, là-dessus, j'ouvre ce livre et je reste, mais je ne sais pas comment vous dire. Dès les premiers mots, j'étais complètement happée. Et ça n'a fait que continuer quand j'ai continué les pages. Et en plus, j'ai eu le sentiment que c'était un livre qui me parlait complètement. En général, j'ai beaucoup de réticence à traduire. Ça vient peut-être du fait que ce n'est pas un métier que j'ai complètement choisi. Là, je me suis dit, mais ça, c'est un langage que je comprends.
Donc, vous l'avez lu, vous l'avez aimé,
Je l'ai plus qu'aimé. J'étais complètement survoltée, j'en parlais à tout le monde. J'ai fait donc la note de lecture qu'on me demandait. Je l'ai accompagné d'un texte d'Angelo Pellegrino, justement, le second compagnon de Goliarda, qui était en préface ou postface dans l'édition Stamp Alternative, une maison d'édition assez marginale et pas très fortunée. Le livre ressemblait à un livre de poche, vraiment pauvre. Ce n'était pas un beau livre du tout. Angelo avait écrit un texte que j'estime être peut-être le plus beau de ce qu'il a écrit sur Goliarda, où on comprenait d'abord qu'écrivait quelqu'un qui l'avait aimé, ami, amant, je ne savais pas du tout, hein, peu importe d'ailleurs, mais il faisait comprendre, entendre ce qu'était à la fois la femme et l'écrivaine. Donc j'ai ajouté ça pour que ce soit encore plus convaincant, et puis quelques lignes sur sa biographie, parce que tout de même, là aussi, il y a des choses qui tout de suite frappent. Et je crois que dès le lendemain, les éditions Viviane Ami m'ont rappelé, on le prend. Voilà, donc après, il y a eu quelques mois, et puis on me l'a donné à traduire, et de manière amusante, bon, c'était quand même assez évident que c'était moi qui allais le traduire. J'étais une des deux traductrices d'italien qui travaillait avec Viviane. Je savais qu'elle me faisait confiance, j'avais déjà fait deux traductions avec elle. Et bien, comme je tenais à cette traduction, le temps en suspens, je me disais, mon Dieu, pourvu que ce soit moi qui traduise. Parce que là, vraiment, c'était quelque chose d'important pour moi.
Je vais essayer, pour ceux qui ne connaissent ni le livre ni l'autrice, de résumer un petit peu ce qu'il s'y passe. Oui. C'est donc un gros livre qui raconte l'histoire de Modesta, qui est née en Italie au début du XXe siècle, en Sicile. Et donc, du chaos de son enfant jusqu'au hasard de la vie qui font d'elle l'héritière d'une famille dégénérée de nobles siciliens, bien on la suit dans une œuvre qui invite à l'apprentissage de la liberté, en tout cas la façon dont c'est raconté au dos du livre. Je parle d'un gros livre de 800 pages. À quoi a ressemblé le travail de traduction sur un récit aussi conséquent avant la parution, donc en 2005?
Eh bien, le travail de traduction, j'avais demandé 6 mois pour le faire, et Frédéric Martin m'avait demandé 50 pages. Quand je m'y suis mise, un peu tardivement d'ailleurs, je lui en ai envoyé 100 à peu près. J'étais complètement emportée par le livre. Et après, j'ai fait une chose qu'on ne fait jamais, que je n'ai jamais faite autrement, bon, qui tenait à la fois à la longueur du livre sans doute, mais aussi au fait que finalement je me sentais un peu responsable de la publication, et puis j'avais envie de partager. Et donc, il y a 4 parties, et partie après partie, j'envoyais ce que j'avais fait, au lieu d'attendre la fin. Et il n'y a que Viviane Ami qui a lu uniquement à la fin. Frédéric a lu tout de suite, et les jeunes femmes qui, avec lui, étaient collaboraient avec Viviane, l'ont lu, je crois, également. Grand enthousiasme, et en fait, La maison d'édition a tout de suite, j'avais à peine fini la traduction en février-mars, ils ont déjà commencé à envoyer des pages, des épreuves à des journalistes, à des critiques, etc. Mais moi, voilà, j'avais besoin quand même de ce temps, j'en avais besoin aussi pour pouvoir m'arrêter de temps en temps, parce que c'est quand même extraordinairement intense, intensif. Et puis j'avais besoin de retrouver un peu mon univers, parce que j'ai aussi besoin de ça pour passer à l'univers de l'autre. Donc il y avait des petits moments où je m'écartais un peu de l'art de la joie pour y revenir mieux.
Le livre, il sort en 2005, il rencontre un grand succès, donc il sort aux éditions du Tripode.
Non, il sort aux éditions Viviane Ami à l'époque.
C'est ça.
Oui, oui, le Tripode l'a repris 10 ans plus tard.
Le succès, il tient à quoi ? C'est avant tout au côté transgressif de cette héroïne qui a un sens de la morale propre à elle.
Alors moi, je pense que ça tient quand même beaucoup à ça. Enfin, ça tient partiellement à ça. Ça tient beaucoup, à mon avis, au fait que Goliarda met toute sa vie dans ce qu'elle écrit. Et très justement, une critique a dit « c'est une expérience existentielle de lire l'art de la joie ». Et c'est vrai, c'est pas une expérience seulement littéraire. Je crois que ça tient à ça. C'est-à-dire, on ne rencontre pas des personnages, on rencontre des êtres vivants. Où elle a insufflé sa vie, ou laissé passer une vie qui l'a dépassée, d'ailleurs, à certains égards. C'est très étonnant. Et puis, je pense, alors ça, c'est peut-être pas les meilleures raisons, mais enfin, en tout cas, ce ne sont pas les plus littéraires, mais je pense que ce qui a joué quand même aussi, c'est qu'évidemment, notamment une lectrice, se trouve face à tous les problèmes, disons, pour employer un terme un peu idiot, auxquels s'est trouvée confrontée une femme au XXe siècle. Et maintenant, c'est un peu différent, sans doute. Il y a eu des évolutions très rapides, et maintenant, manifestement, d'abord, certains ont beaucoup de mal à lire le livre, apparemment. C'est nouveau, ça. Mais pour ceux qui n'ont pas de mal à le lire et qui, au contraire, s'enthousiasment, le côté, non pas tant transgression, d'ailleurs, qui devrait importuner en ce moment, plutôt, mais dépassement des frontières sexuelles, parle beaucoup.
Vous avez dit dans Le Monde que tout de suite, vous avez eu envie de tirer l'œuvre et avec elle la femme d'un injustifiable oubli.
Ah oui, absolument.
D'où le projet de la biographie qui est sorti cette année. Non. Ça, c'était lié ?
Non, pas du tout. Ce qui était lié, c'était vraiment la traduction de L'Art de la Joie. Parce que je savais que Goliarda tenait à ce livre plus qu'à tout, et que ce livre a été refusé par tout le monde, et que pour elle, c'était un deuil. Enfin, elle était inconsolable, et en même temps, elle espérait. Elle a toujours cru qu'un jour, ce livre serait lu. Mais ça a été une souffrance énorme, ça, j'en suis persuadée. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ait laissé passer une chose pareille. Il faut réparer ça. Parce qu'en fait, j'ai appris l'histoire de Goliarda avec ce livre en même temps que je lisais le livre. C'est ça qui m'a donné ce sentiment, ce désir de réparation, en fait. Ce désir de tirer ce livre et elle-même d'un oubli qui me semblait en effet complètement injustifiable.
Cette vie, vous la racontez dans une biographie qui est sortie cette année à l'occasion des 100 ans qu'aurait eu Goliarda Sapienza cette année. Vie, mort et renaissance de Goliarda Sapienza, c'est paru aux éditions du Seuil. Sur quelles ressources vous vous êtes appuyé pour raconter sa vie ?
Alors énormément sur ses livres, puisqu'il y a beaucoup de choses autobiographiques, mais enfin en même temps sur d'autres choses que ses livres qui m'ont également montré que, évidemment, comme tout auteur, elle n'est pas dans l'exactitude la plus totale dans ce qu'elle raconte. Et c'est d'autant plus intéressant qu'évidemment, ça donne beaucoup de clés sur des choses qui pouvaient lui manquer, ce dont elle pouvait souffrir, ce qu'elle pouvait espérer, etc. Et donc, elle recompose, bien sûr, enfin, notamment son enfance dans les deux premiers livres autobiographiques. Et même un troisième, mais le troisième, qui est Moi Jean Gabin, qu'elle a écrit après L'Art de la Joie, c'est clair qu'elle recompose. Enfin, on sent qu'il y a un côté romanesque qui est mélangé à l'autobiographie. Alors que vraiment, les deux premiers, donc sur son enfance, Lettre ouverte, et Le fil de midi sur sa psychanalyse, qui a été un moment essentiel aussi de son existence, elle est censée dire directement ce qui a été. Or, elle est un peu loin de dire directement ce qui était. Et elle le dit en même temps, mais avec des modifications. que d'ailleurs quand on lit bien, ce que j'ai fait au fur et à mesure, parce qu'au départ j'avais une lecture un peu naïve, je me laissais prendre par ce qu'elle disait, et finalement on se rend compte qu'à tel ou tel moment, on a une clé qui montre que ce qu'elle raconte, c'est impossible. Au début, j'ai été un peu déconcertée, et puis je me suis dit, mais justement, c'est d'autant plus intéressant.
En tout, ce sont combien d'œuvres de Goliarda Sapienza que vous avez traduites pour le moment ?
Alors, non, mais pour le moment, et même, je pense que ce sera tout. Attendez, il faut que je compte, je ne sais pas. L'art de la joie, lettre ouverte, le fil de midi, moi Jean Gabin, l'université de Rebibia, les certitudes du doute, rendez-vous à Positano, les carnets ancestrales, et les lettres, maintenant, et destin piégé.
11,
voilà, on y arrive, 11. L'essentiel est fait, et il reste des choses qu'elle n'a pas publiées elle-même. Donc il y aura un gros travail d'archives quand elles seront vraiment données au public.
Il y aurait beaucoup de mots pour parler de Goliarda Sapienza, féministe, antifasciste, et puis il y a eu les dépressions, la prison. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans son parcours ? Pour là, un auditeur qui ne connaîtrait pas encore Goliarda Sapienza, mais qui va donc aller lire ses récits après.
Moi, je dirais que c'est plutôt une dissidente que quoi que ce soit d'autre. Parce qu'elle n'a pas milité, Goliarda, en fait. Elle a vu les excès et les drames, en tout cas, du militantisme avec ses parents et notamment sa mère. Peut-être aussi le frère dont elle tient le nom, qui a été très vraisemblablement tué parce que c'était un excellent nageur et il est mort noyé. Il a été probablement tué par des mafieux, fascistes, en représailles de l'engagement de son père et de sa belle-mère. Et peut-être de chien propre parce que même tout jeune, à 14 ans, il commençait à militer. Mais enfin, peut-être plus probablement en représailles de ce que faisaient ses parents qui étaient des militants vraiment acharnée, notamment Maria Giudice. C'est une jusqu'au boutiste et sacrificielle. Elle aurait tout donné pour aller à la défense de ce qu'elle voulait défendre, justement, c'est-à-dire les déshérités, d'une manière générale. Mais Goliarda, oui, je dirais qu'elle est plutôt dissidente qu'autre chose. Alors, je dirais insoumise, certainement, mais plus encore dissidente, parce qu'on voit, dans les dernières années de sa vie, elle a parfois, comme Pasolini d'ailleurs, qu'elle n'aimait pas beaucoup, mais leurs positions se rejoignent très fréquemment. Elle a parfois des positions qu'on dirait presque réactionnaires, par exaspération, parce qu'elle n'accepte pas les dogmes et elle n'accepte pas la ligne tracée. Donc c'est ça que je retiendrai peut-être plus que toute autre chose chez elle, y compris pour le féminisme d'ailleurs. En réalité, elle était évidemment féministe et puis très attachée au féminisme de sa mère, mais exaspérée par les féministes qu'elle côtoyait. Donc tout ça est vraiment, quand elle a donné comme sous-titre, elle voulait donner comme sous-titre à ses livres autobiographiques, Autobiographie des contradictions, ce n'était pas par hasard.
Et je voulais peut-être terminer avec cet extrait de L'art de la joie sur lequel je suis retombée. Quand on utilise les mots des fascistes, on finit par les absorber. Peu à peu, ils te travaillent de l'intérieur. Et un beau matin, tu te retrouves fin prêt pour eux avec chemise noire et pantalon à la zouave. Vous disiez que sur le combat, notamment sur les droits des femmes, évidemment, des choses ont bougé depuis le contexte d'écriture. Il y a quand même une résonance particulière sur plein de thèmes qui sont abordés dans L'art de la joie, mais aussi qui traversent le parcours de Goliarda Sapienza sur les questions de sexualité, sur la question du fascisme, des violences, etc.
De genre aussi, bien sûr. Oui. Mais elle est très intéressante, cette phrase que vous citez, parce qu'en fait, je pense que ce qui a inspiré ça à Goliarda, c'est les critiques qu'elle avait à formuler contre ses parents, où elle disait, finalement, à force d'être dogmatique, il devenait un peu fasciste. Elle est ennuyée de dire ça, mais voilà, elle le dit. Et effectivement, cette histoire du langage est très importante. Et c'est pour ça que Modesta le dit, mais je crois que Goliarda le dit aussi dans ses carnets, il faut retravailler le langage, voir ce qu'il y a dans les mots, faire attention à la façon dont on les emploie, etc. C'est extrêmement important, ça, pour elle. Et ça rejoint tout à fait ce que vous avez cité là.
Merci à Nathalie Castagnier pour cet échange. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller lire L'Art de la Joie et pourquoi pas la biographie consacrée à son autrice, Goliarda Sapienza. Un documentaire a par ailleurs été réalisé sur cette autrice italienne, Désir et Rébellion. L'Art de la Joie de Goliarda Sapienza, c'est le titre et c'est à voir en ligne sur arte.tv jusqu'au 7 novembre. Dépêchez-vous.